RFI 8h30 à Paris, une heure de moins en temps universel. L'heure du journal, Édouard Dupénoat.
Et la Guinée, à la une de cette édition africaine, les victimes du drame de Nzérékoré qui déposent plainte 3 mois après cette bousculade mortelle. En marge d'un match de foot, le bilan officiel du nombre de morts ce jour-là reste toujours vivement contesté. Le président du Ghana, qui soigne ses relations avec l'AES, il suggère à la CDAO de reconnaître formellement cette alliance sahélienne. Il était hier à Ouagadougou. 4 personnes, dont 2 journalistes sous mandat de dépôt et inculpés au Tchad, accusés d'intelligence avec une puissance étrangère. Et puis Gérald Darmanin qui rentre du Maroc, le ministre français de la Justice et son homologue promettent une coopération bilatérale encore meilleure que ce qu'elle est actuellement. Une plainte donc déposée en Guinée plus de 3 mois après le drame de Nzérékoré, la bousculade mortelle qui avait éclaté le 1er décembre dans le stade de cette ville, stade plus que bondé pour un match de foot organisé à la gloire du général Doumbouya. Le bilan officiel fait toujours état de 56 morts, mais le collectif des ONG de la région en dénombre au moins 140. L'enquête de ces organisations dénonce aussi la volonté des autorités de dissimuler la vérité. 98 familles viennent donc de déposer plainte auprès du tribunal de Nzérékoré, notamment pour meurtre, omission de porter secours ou encore recel de cadavres. Explication avec maître Paul Lazarbilimou, joint par Sidi Yansané.
On a constaté qu'aucune enquête n'était véritablement ouverte. Aucune victime n'avait été reçue, aucun parent de victime également. Donc, sur accord de ces victimes et parents de victimes qui sont d'ailleurs en train de s'organiser en association, nous avons décidé de déposer des plaintes régulières. Ce qui est clair, c'est que des véhicules des officiels ont roulé sur des jeunes spectateurs qui étaient là. Le portail est tombé sur des gens. Le véhicule sont passés dessus. Et c'est là qu'il y a eu plus de morts d'ailleurs. C'est là qu'il y a eu plus de morts. Tous ces corps qui ont été transportés à l'hôpital, la majeure partie venait de là.
Vous m'avez aussi parlé de recel de cadavres, maître, c'est-à-dire ?
Des corps ont été envoyés au camp militaire, au camp de la 4e région militaire. Des corps ont été envoyés là. Et jusqu'à présent, on ne sait pas d'où sont partis ces corps. Parce que jusqu'à présent, il y a des parents qui n'ont pas les nouvelles de leurs enfants. Il y a des époux qui n'ont pas les nouvelles de leurs épouses, ainsi de suite. Donc, nous estimons que ces corps qui étaient au camp, ce sont ces corps-là qu'on ne retrouve pas jusqu'à présent. Alors que ces parents ne cherchent de réclamer les corps pour pouvoir au moins les enterrer de façon digne.
Maître Paul Lazarbilimou avec Sidi Yansané. Le dernier de 3 déplacements pour le président ghanéen John Dramani Mahama reçu hier à Ouagadougou par le président de la transition burkinabé. Ils promettent l'un comme l'autre d'accroître leurs échanges bilatéraux, de créer un gazoduc entre les deux pays, ainsi qu'une liaison aérienne quotidienne entre Ouagadougou et Accra. Le dirigeant ghanéen était avant cela à Niamey et à Bamako pour essayer de renouer un peu le dialogue entre l'Alliance des États du Sahel et la CDAO. Il propose d'ailleurs à la communauté ouest-africaine de reconnaître cette AES. Mais Accra y voit aussi, et plus prosaïquement, ses propres intérêts. La sortie des 3 pays de la communauté économique peut avoir des conséquences très concrètes sur l'attractivité, Claire Fage, de sa façade maritime.
C'est une préoccupation pour le nouveau président John Dramani Mahama. Le Ghana ne faisant pas partie de la zone de libre-échange de l'UMOA, il lui faut conclure des accords bilatéraux avec les pays de l'AES qui ont quitté la CDAO. François Giovalucchi, expert de la zone franc.
Autant l'AES et les autres pays de la zone franc appartiennent toujours à la même zone de libre-échange, la question se pose pour le Ghana et le Nigeria. Donc, pour un pays côtier comme le Ghana, il a intérêt à trouver des solutions pour calmer le jeu et faire en sorte que, par exemple, ses échanges avec le Burkina Faso ne soient pas taxés.
Il s'agit en particulier pour le Ghana de maintenir le rang de son port, Tema, vis-à-vis des ports concurrents de la CDAO. Yann Alix, expert du transport maritime.
Aujourd'hui, on a une vraie bataille des corridors avec 3 grandes clés d'entrée que sont Abidjan, Tema et maintenant Lomé. Sur Burkina Mali, vous avez une triple option pour les chargeurs et pour les organisateurs de transport. Et aujourd'hui, depuis 2 ans, avec l'ouverture du 2e terminal à Abidjan, Tema avance beaucoup moins vite.
Pour préserver ce trafic de transit à Tema, les autorités ghanéennes ont déjà accordé un allègement de redevance aux chargeurs burkinabés en décembre, tandis que les autorités de Ouagadougou annoncent avoir acquis un dépôt d'hydrocarbures sur le port ghanéen.
Coopérer plus étroitement avec l'AES et cette fois dans la lutte contre le terrorisme, c'est aussi exactement ce dont il a été question ces derniers jours au Nigeria. Le pays accueillait un petit panel d'une 10aine d'experts et d'acteurs de la société civile, venus notamment du Mali, du Niger et du Burkina, venu voir d'une part la stratégie qui a permis à Abuja de contenir la menace de Boko Haram, mais aussi discuter de la résurgence d'un nouveau groupe armé terroriste, dit Abuja, aux confins du Niger. Lisa Fabian.
En tant qu'Africains, nous devons nous unir, en particulier dans la région du Sahel. C'est ce qu'a déclaré le chef d'état-major des armées du Nigeria lors de sa rencontre avec la délégation sahélienne. Le général Christopher Moussa a particulièrement insisté sur l'importance d'une coopération renforcée entre son pays et les États membres de l'AES. « Nous sommes une seule famille », a déclaré le général Moussa, qui se veut une fois de plus rassurant quant aux intentions du Nigeria. « Nous sommes un pays pacifique et nous ne serons jamais des ennemis », insiste-t-il. La lutte contre le financement du terrorisme est un enjeu majeur pour le Nigeria. Le général Christopher Moussa s'est inquiété des problématiques liées aux activités minières illégales qui permettent aux terroristes de se financer, selon lui. Le Nigeria est en prise avec une situation sécuritaire de plus en plus complexe, notamment dans les régions frontalières du nord-ouest du pays. La résurgence d'un groupe armé surnommé la Kurawa et classé organisation terroriste par Abuja inquiète particulièrement. Ces hommes, dont certains seraient originaires du Mali, du Burkina et du Niger, ont multiplié les attaques sur le sol nigérian ces derniers mois, profitant de la porosité des frontières pour mener leurs actions.
Ce groupe des Lakurawa, suspecté justement d'être responsable d'une nouvelle attaque ce week-end, attaque qui a visé en fait 7 villages de l'état de Kebbi ces derniers jours. 11 personnes au moins ont été tuées. Quatre personnes placées sous mandat de dépôt et incarcérées hier au Tchad. Annonce du procureur près le tribunal de grande instance de N'Djamena. Elles sont suspectées, entre autres, d'intelligence avec une puissance étrangère. Parmi ces quatre personnes figurent deux journalistes, dont Olivier Monodji, directeur de publication de l'hebdomadaire Le Pays. Et par ailleurs, correspondant de RFI, ce sont des articles parus dans son journal qui lui vaudraient ses poursuites judiciaires. Il a été arrêté mercredi dernier, on le rappelle, mais il n'a donc appris qu'hier ce qui lui était reproché. Son avocat dénonce toujours malgré tout des charges très floues à son encontre. Esdras Dikoumana.
Le procureur de la République près le TGI de N'Djamena a précisé dans sa courte déclaration aux médias tchadiens Al-Wida Info ce qu'on reproche aux quatre inculpés, des charges très lourdes, Oumar Mahmat Kedelaï.
Après leur interrogatoire, il a été constaté que les faits qui leur sont reprochés sont constitutifs d'infractions, des intelligences de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique du Tchad, à ses intérêts économiques, de complot contre l'État et de complicité. Eu égard à la gravité des faits, une information judiciaire a été ouverte pour citer la responsabilité de tout un chacun.
Les quatre hommes ont ensuite été entendus par le doyen des juges d'instruction qui les a inculpés pour intelligence avec l'ennemi et pour complot ou encore atteinte à la sécurité du territoire national qui est passible d'une peine de 20 à 30 ans de prison selon un des avocats d'Olivier Monodji. Celui-ci dénonce un dossier vide à ses yeux, Maître Amos Alata.
On attendait qu'il nous dise le degré d'implication de notre client qui est journaliste de profession. Nous lui avons rappelé qu'à la police du judiciaire, on lui a présenté que des coupures de presse dont il a reconnu la publication dans son site du journal Le Pays, des informations qui ont un caractère plutôt publicitaire. Mais on n'a pas dit qu'est-ce que M. Olivier a fait concrètement.
La mission du doyen des juges d'instruction a approfondir celle-ci pour situer la responsabilité de chacun des mises en cause. En attendant, tous les quatre ont été placés sous mandat de dépôt et acheminés vers la maison d'arrêt de Kressoum pour y être incarcérés.
L'avocat d'Olivier Monodji qui assure par ailleurs que sa production pour RFI n'est pas mise en cause dans l'affaire en cours. Le SINABEF, le syndicat national des assurances, des banques et des établissements financiers du Mali, lançait hier un mouvement de protestation. Ce syndicat, rattaché à la centrale UNTM, appelle à des rassemblements devant les banques du pays, et cela jusqu'à demain. Surtout, il a décidé de suspendre, jusqu'à nouvel ordre, les transferts de garanties de l'entreprise publique EDM Énergie du Mali et de toutes les structures publiques et parapubliques du pays. À l'origine de cette colère, le placement sous mandat de dépôt de deux banquiers la semaine dernière, dans le cadre d'une enquête sur de possibles malversations. David Bachet.
En cause, selon plusieurs sources syndicales et judiciaires, un contrat liant la société publique d'électricité EDM à l'entreprise indienne Mekamidi HPP, spécialisée dans la fabrication de turbines. La justice malienne soupçonne des détournements de fonds publics. 6 personnes ont été arrêtées et placées sous mandat de dépôt, dont 2 cadres maliens d'Ecobank. À l'été 2022, Alassane Touré et Birom Diop transmettent des messages, dits Swift, de garanties bancaires destinées à EDM. EDM. C'est cet acte qui leur vaut aujourd'hui d'être poursuivis pour complicité de faux et usage de faux et complicité d'atteinte aux deniers publics. Indignation du syndicat des banques qui assure que les deux hommes ont respecté la réglementation bancaire et qu'ils ne sont en rien mêlés à d'éventuelles malversations. Le Sinabef appelle les salariés des banques à protester chaque matin devant leur établissement et décrète surtout l'arrêt des transferts de garantie de l'EDM et des autres structures publiques et parapubliques. Le but est de bloquer toutes les transactions de l'État, transferts et opérations bancaires, explique un cadre du Sinabef, qui précise que cette action n'est pas encore effective. On va aller crescendo, promet cette source, en fonction des pourparlers en cours.
Et le ministère malien n'a pas donné suite aux sollicitations de RFI. La promesse d'une coopération accrue encore entre le Maroc et la France. Gérald Darmanin terminait hier 2 jours de visite dans le royaume. Le ministre français de la Justice a rencontré son homologue ainsi que plusieurs cadres du système judiciaire. Deux systèmes qui coopèrent déjà, notamment dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, et qui promettent, Mathias Reynal, de se rapprocher encore davantage.
C'est la deuxième visite de Gérald Darmanin dans le Royaume en moins d'un an. Au micro des journalistes, il a salué l'excellence des relations entre Paris et Rabat. Sans le travail du Maroc, la France serait moins sûre, a même lancé le ministre de la Justice, qui a rencontré certains des hauts responsables du système judiciaire marocain, le premier président de la Cour de cassation, mais aussi le procureur général du roi près la Cour de cassation. Aux côtés de son homologue marocain Abdelatif Wahbi, le ministre français de la Justice a conclu sa visite hier par la signature d'une déclaration conjointe sur la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, Paris et Rabat réaffirmant dans ce texte leur volonté d'intensifier les efforts dans ces deux domaines. Le Maroc fait figure de partenaire privilégié. À la fin du mois de février, 2 Français ont été arrêtés à Marrakech, soupçonnés d'avoir participé à l'évasion du narcotrafiquant Mohamed Amra. Gérald Darmanin a dit espérer leur extradition dans les prochains jours. En janvier dernier, le Maroc a livré également à la France Félix Bengui, le chef présumé du clan Yoda, l'un des principaux gangs de narcotrafiquants marseillais. Mathias Reynal, Casablanca, RFI.
Casablanca, où il est 7h42, André Anne Mélard.
42 à Paris, merci Edouard, belle journée à vous.